Jason there, Lewis.
Yeah.
Champion of the world. Bellingham. What a moment for the 19-year-old. Hughes creates space. Hughes shoots. He scores. Hughes has done it again.
Voici Greg Lantour et Yannick Godbout.
C'est l'épisode numéro 100. Alain, il sait pas, mais quel honneur d'avoir un invité comme Alain Choquette, l'épisode numéro 100. Alain, pour ceux qui ne savent pas, est un très, très gros collectionneur, un passionné. Il a des histoires de comté. Il a tellement... Je sais même pas ce dont toi, tu veux me parler aujourd'hui, mais je sais qu'il a amené plein d'items de collection. Là, je vais me permettre une seule joke plate. J'ai pas amené ma collection. Je me demandais si elle allait disparaître en quelque part, puis j'allais plus la trouver. Alain Choquette.
Salut.
Comment ça va?
Ben ça va bien. En fait, c'est moi qui t'ai appelé.
Ben oui, mais
c'est... Non, on se tutoie, là.
Ben oui, on se tutoie.
OK. C'est moi qui t'ai appelé.
Ben oui, je vois ça, le message, moi, qui rentre. Alain Choquette, hey, je trippe sur votre show. J'aimerais ça qu'on jase ensemble. Il n'y a même pas de questions. on en a parlé hors des ondes. J'avais reçu Dominique Paquet il y a très, très longtemps de ça. Puis je t'avais entendu cet été ici également. C'était-tu cet été ou...
Ouais.
Non, c'était cet automne.
Non, ben cet été, je venais avec
Pat Laprade.
Pat le matin, quelques matins, pour parler un peu des artefacts.
Ouais.
Moi, je suis plus planté dans l'artefact que la carte. D'ailleurs... Quand je vous écoute, moi, je marche tous les jours, je marche une heure tous les jours.
Ah,
puis
ouais.
Je trouve ça, vous écoutez, vous autres, ces podcasts, écoute, je comprends rien. Je comprends rien, mon gars. Écoute, je vous écoute, j'ai l'impression d'écouter un chirurgien qui fait une opération. Passe-moi telle affaire, il se passe telle... Tu sais, hier, la dernière fois, je l'ai écouté hier, vous avez parlé de la nouvelle sortie des...
De Connor Bedard, oui.
Ah, mais écoute, là, tu me dis qu'il y a 42... Connor Bedard différente.
Oui, exactement. Là-dedans? Parce que oui, t'as la Young Guns, mais t'as. Ça, je trouve ça tellement intéressant que tu me dises ça.
Ça n'a pas de bon sens.
Parce que c'est difficile dans notre monde quand nous autres, on parle de cartes. Pour nous, c'est rendu inné. T'sais, on comprend toutes les variantes et tout le
ouais.
reste. Mais il y a. Puis c'est drôle, notre producteur qui vient juste de sortir du studio, Pierre-Alexandre.
C'était son opinion.
Il m'a dit la même chose que
ouais.
toi. Donc, il dit, tu sais, c'est le fun d'écouter Show de Cap. Vous avez une belle énergie, toi puis Yanakis. Yanakis qui ne peut pas être là aujourd'hui, malheureusement. On va refaire un autre avec toi, Yanakis aussi. Je pense que vous allez avoir bien du fun. J'ai vu une page de journal comme ça. Ça, c'est le truc que lui, il fait triper.
OK.
Ben raide. J'ai hâte que tu me présentes ça. Mais. Quand on dit qu'il y a 42 Connor Bedard, celle qui va toujours avoir... Puis là, je fais un petit peu d'éducation parce que je pense que c'est important pour ceux, depuis qu'on est à BPM, qui se joignent à nous autres tous en même temps. Tu as sa Young Guns régulière, que tout le monde connaît, qui est la carte recrue la plus populaire, si on veut. Et tu as plusieurs variantes de celles-là qui sont de plus en plus rares.
Plus limitées.
Plus limitées, exactement. Donc, tu en as une, tu as la une de une, qui est la fameuse celle à 1 million US. T'en as sur 10, t'en as une sur 25, qui est la Outburst Red, t'en as une sur 100, t'en as une sur 250, puis t'as la Silver, qui n'est pas numérotée, mais qui est plus rare à ce moment-là aussi. Mais après ça, t'as d'autres types de cartes aussi qui sont là, sa fameuse Portrait, les variations de la Portrait, et la Dazzlers aussi, qui sont des cartes de moins grande valeur, mais qui sont quand même des cartes recrues de Bédard, tu sais.
Greg... Je donne vraiment une opinion extérieure. C'est passionnant tout ça, mais en même temps, c'est complexe. Là. C'est compliqué. Parce que d'ailleurs, on va parler un petit peu, en tout cas, j'espère, de philosophie de collection.
Ben oui.
Comment les gens s'orientent au travers de tout ça? Est-ce que quelqu'un va décider, OK, moi, je les veux, les 42. Est-ce que je veux toute la série? Est-ce que j'en veux juste les Young?
Il y a beaucoup de gens qui vont vouloir compléter les séries. Ça me surprendrait que quelqu'un dise « Je veux les 42... » Ben, en fait, tu pourrais pas avoir les 42 cartes de Connor Bedard.
Parce que t'as la 1 de 1.
Ouais. Parce que t'as la 1 de 1. À moins que tu tombes sur la 1 de 1, mais à ce moment-là, là, c'est toi qui décides de la garder ou de la vendre
je
pour 1 million US à Dave and Adams.
Ouais.
Tu sais... Puis là, c'est tellement intéressant comme discussion parce que là, ça amène sur un autre concept qui s'appelle ce qu'on appelle les arcs-en-ciel, les fameux rainbow, de dire « Je veux... » toutes les variantes possibles de la même carte, par exemple. Par exemple, les fameuses Dazzlers, t'en as une bleue, une verte, une rose, une noire. T'sais. Donc, ils vont essayer d'aller chercher toutes les variantes possibles. Il y en a qui sont plus dispendieuses parce qu'ils sont plus rares. C'est un petit peu un concept qu'Upper Deck a fait, puis toutes les compagnies de cartes, parce que Je sais pas si tu collectionnais dans les années 90. Au début des années 90, il y a cette fameuse ère où est-ce qu'on imprimait beaucoup trop de cartes. Mm-hmm. Tu sais, par exemple, la série 2 d'Upper Deck, on l'imprimait, il en restait plus, on en réimprimait d'autres. Puis ça, c'était comme ça. Ça a tellement causé d'offres que la demande n'était plus tellement là. Puis ça, ces cartes-là n'ont plus aucune valeur aujourd'hui. Alors, d'avoir des cartes limitées comme ça, des cartes qui sont plus rares, ça a amené le hobby à avoir des valeurs un petit peu plus grandes selon les joueurs et différents comme ça.
Là, écoute, moi, je suis de l'époque où ma Bobby Orr rookie est allée sur ma route basic. Là,
ça te fait-tu mal au cœur quand tu passes ça?
Ben, on a tous passé par là. Là mais elle sonnait bien, par exemple. Elle sonnait bien. Mais écoute... au travers de tout ça, je trouve ça fascinant. Je vais dans des shows de cartes. Je trouve que c'est des beaux objets. C'est attrayant. Mais moi, j'ai une philosophie de collectionner un peu en entonnoir. C'est-à-dire que je vais me choisir pas des disciplines, là, mais comment je pourrais appeler ça? Un angle particulier où je m'enligne vers ça.
Ouais.
Puis si je m'enlignais dans la carte, là, j'étais un jeu grec. Je l'apprécie, là, mais je suis perdu. Je veux-tu des pièces de chandail? Je veux-tu des pièces de bâton? Je veux-tu des premières années? Tu sais, c'est que c'est... Il y en a que... Comment on s'oriente? On prend goût? Qu'est-ce qu'on cherche?
Je trouve ça intéressant, encore une fois. C'est la première fois, je pense, qu'on me pose autant de questions en direct sur mon
podcast.
Même phrase. Je trouve ça adorable. admirable aussi. Puis tu sais... Puis là, Yannick rit tout le temps de moi, c'est sûr, t'entends ça. Bon, Greg, un nouveau trip. Mais la collection, puis c'est un mot. J'ai hâte que tu me parles de ta philosophie, parce que tu as des angles très précis. Mais il y a des gens qui prennent un angle précis, puis qui se dédient à cet angle-là, puis qui disent moi, je veux ça précisément, puis c'est uniquement ça que je collectionne. L'épisode précédent, par exemple, c'est un collectionneur uniquement de gardiens de but.
Oui.
Il fait juste collectionner les gardiens de but. Yanakis, lui, c'est les durs à cuire, les toughs. Il adore ça. Mais il y a d'autres choses aussi dans sa collection. Puis moi, je me suis rendu compte, oui, j'aime les cartes recrues, mais en même temps, tu sais, par exemple, on jasait peut-être de l'éventualité que Marc-André Fleury s'en aille jouer avec les Kings. Si jamais c'était le cas, j'aurais voulu une carte de Marc-André Fleury avec les Kings. C'est sûr et certain, malgré que la valeur n'aurait pas été là. C'est mon équipe depuis que je suis tout petit. Tu le sais si tu écoutes le podcast. Donc oui, les recrues, mais en même temps, tu sais, je pense qu'il y a tellement de côtés à la collection. Il y en a un, il y a quelque chose que j'ai envie de partir comme collection, puis c'est d'avoir une carte recrue avec un morceau de chandail, une patch, de chacun des joueurs que j'ai passé en entrevue pour les podcasts. T'sais. Donc, j'ai celle de Pierre-Luc Dubois, j'en ai acheté une de Benoît-Olivier Gros. Pour moi, c'est une façon de collectionner. Puis les chandails aussi, tu vois, tous les chandails.
Mais c'est cool moi, parce que tu vas les regarder plus tard, ça va te rappeler quelque chose.
Ben, quand je suis allé là-bas, exactement.
Ben oui.
C'est un morceau pour moi. T'sais, si j'ai une carte, ça me rappelle pas nécessairement le match que je suis allé, mais me rappelle du moment où est-ce que j'ai acheté mon chandail de McTavish-Anheim, par exemple.
Ce que j'aime de ça, c'est qu'au-delà d'une valeur monétaire, il y a une valeur émotive que tu rattaches à la collection
toujours, que
tu veux faire. Et aujourd'hui, ce que je trouve plate, c'est qu'on parle toujours de chiffres. Ça vaut tant, ça vaut, je veux celle-là parce qu'il va prendre de la valeur. Au lieu d'avoir une émotion quand tu regardes l'objet qui te rappelle... quelque chose. Si tu vends pas tes chandails d'ici 10, 15, 20 ans, parce que moi, je vais te parler d'objets que j'ai depuis que je suis petit cul, puis ces objets-là ont quelque part semé mon envie de
ça a commencé comment, toi, cette passion-là de la collection?
Très bonne question. En fait, c'est venu sur le tard, parce que je collectionne certaines choses. Si on parle de sport, je suis un collectionneur d'antiquités. De meubles. J'ai comme une maîtrise en antiquité québécoise.
Ah oui?
Parce que j'ai animé une émission pendant plusieurs années sur Historia qui s'appelait Passion Maison, qui étaient des gens qui ramenaient en vie des maisons abandonnées, ancestrales, remplies de meubles antiquité.
Wow.
Et mon gourou qui m'a initié puis qui m'a enseigné l'antiquité me disait toujours, un, faut que tu achètes le bon morceau qui va prendre de la valeur. Et deux, faut que ça serve. OK? Donc, tu n'accumules pas des vieux coffres puis que ça ne sert pas. Et les cartes, c'est la même chose. Ce que je t'entends, c'est que tu vas... Moi, j'ai des coffres chez nous, je les regarde, je sais d'où ils viennent, je sais où je les ai achetés, je connais l'historique, je connais l'âge, l'époque, puis il y a une histoire au travers de ça. Fait que c'est ça que j'aime. Alors moi, pour revenir à mon premier objet, je vais te donner une photo. J'espère que je vais la retrouver tout de suite, parce que j'ai fait le bordel quand j'ai amené tout ça. Non, je l'ai quelque part parce qu'il y a... OK, oui, je l'ai ici. Je vais te donner une photo. Je te la donne. Si tu veux jamais, tu veux la montrer, je ne sais pas plus précisément. OK. Qu'est-ce que tu vois là-dessus? Tu peux la décrire?
Ben, c'est une équipe de balles qui ont des uniformes qui ressemblent un peu, là, pour ceux qui nous écoutent en audio, là, qui ressemblent un peu aux couleurs des comment ça s'appelle maintenant l'équipe? Les Commanders de Washington ou des 49ers Burn. De San Francisco. Je ne sais pas si je peux vous montrer. On peut zoomer à la caméra ici.
Alors ça, moi, je suis à Sainte-Adèle. OK? Et c'est mon équipe, puis oui. Moi, je suis là-dessus, là.
Toi, c'était-tu celui en bas à droite?
Les cheveux blonds? Le petit blond, ouais.
C'est toi, ça.
OK, moi, j'étais un lanceur. Et là-dessus, il y a un autre joueur qui habitait Sainte-Adèle, et le nom va te rappeler, c'est sûr, quelque chose. C'est Stephen Brofman.
T'es-tu sérieux?
Oui. Attends, je vais te le montrer.
T'es-tu sérieux?
Là, je suis obligé de tenir le micro. Il faut que je mette mes lunettes parce que... Tout mon handicap. OK. Moi, je suis ici.
Oui.
Et Stephen Brofman, il est là. Troisième à partir de la gauche.
Dans le milieu, là. Attends, okay. Je vais vous le pointer à la caméra comme c'est ici. Voilà, vous faites
en
voir.
Bas de ton doigt, c'est
ouais,
ça.
Stephen Brofman.
Donc, parce que M. Brofman habitait Sainte-Adèle.
Ben, je pense qu'il demeure toujours là où ils ont des propriétés à Tremblant.
Ça se peut, ouais. Mais sa maison principale est à Sainte-Adèle. Charles Brofman, qui est propriétaire des Expos, nous amène voir un match des Expos. Donc, mon équipe, là, ça c'est les Dodgers. On joue même pas pour les Expos, on joue pour les Dodgers de Sainte-Adèle.
Les Dodgers
et,
de Sainte-Adèle.
Et M. Brofman nous amène voir un match. Bon, là-dessus, j'ai 11 ans. C'est Pee-wee. Pee-wee, 11-12 ans. Et il nous amène au Parc Jarry. Voir un match. Et on est première rangée en avant.
Ah, oh, ouais. Okay.
Et là,
est-ce que c'était ton premier match?
Oui, tout à fait. Et là, moi, le souvenir que j'ai, c'est qu'on était là. Batter, 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 swing! Puis quand il swingait dans le beurre, on était sûr que c'était à cause de nous autres. Fait qu'on riait comme des malades. C'est le souvenir que je me rappelle. Et à la fin, M. Brofman nous a remis chacun une balle. Signée par l'équipe. Et je l'ai ici.
Ben voyons donc. Okay.
Ça, c'est la balle 73.
Est-ce que c'était au moment que Suki était la mascotte de l'équipe?
Ça, tu m'en demandes pas mal. Je m'en rappelle pas. OK. Alors, je sais pas si tu es capable de lire certains noms.
J'ai Allen ici. Humphrey. Un petit peu. J'essaie de trouver des noms. Larry Doby.
Larry Doby, oui.
Ron Woods.
Oui.
Tony...
Attends, je vais t'aider.
Tony Sis, quelque chose. Bernie Allen.
T'as bout d'idée. L'autre panneau, il est plus facile. Celui-là, il est plus facile.
Non, ça, c'est celui que j'avais.
Là-dessus, t'as Ron Hunt, t'as bout d'idée.
Philippe Allou,
joueur, évidemment. Ouais. Le coach Gene Mock. T'as Bill Stoneman, lanceur.
Steve Rogers,
rookie. Ben oui.
Ah oh, ouais.
Rookie première année.
Wow.
Donc ça, quelque part, ça a été mon premier objet de collection. Et à un moment donné, je fais un show. Je suis demandé pour faire un show pour les Expos. Les joueurs, la famille, tout ça. Fait que je fais un show. Et là, on me donne une balle signée par l'équipe. Donc j'avais deux balles. Et là, je trouve que c'est des beaux objets. J'aime ça. Ça veut dire qu'il y a 30 gars qui ont pris le temps de mettre la main là-dessus et de signer, puis qui se sont appliqués, parce qu'aujourd'hui, les signatures, c'est un peu n'importe quoi. Et c'est des belles signatures, puis moi je les reconnais parfaitement. T'sais, Bill Stoneman, Larry, Ron Woods, Ken Singleton. Alors,
mais t'as raison que dans ce temps-là, les joueurs s'appliquaient énormément pour signer leur nom au complet.
Exact.
T'sais. Ce qu'on voit moins aujourd'hui, quand on regarde, par exemple, les cartes Bowman au baseball, Ou est-ce que là, tu vas me dire, ils en ont tellement signé, mais c'est rare qu'un joueur prend le temps d'écrire son nom complet, va essayer de trouver une espèce de signature qui est très, très
courte. J'ai vu sur Facebook, l'autre jour, je ne sais pas si... c'est comme un joueur, je ne sais même pas c'était qui, là, il avait comme à peu près 200 cartes devant lui, puis il pogne son crayon, puis il part.
Oui, c'est ça, exactement.
C'est un peu... Bref, alors là, je me suis dit, mon Dieu, ça me donne le goût de connaître l'histoire du baseball au Québec. Et là, j'ai commencé à lire sur les Royaux. L'histoire des Royaux de Montréal qui ont commencé fin 19e siècle. Et c'est une histoire absolument extraordinaire. Et là, je me suis mis à chercher des objets, des antiquaires. On n'avait pas Internet à ce moment-là. Et là, je me suis ramassé une dizaine d'objets. Le musée McCord venait d'avoir un succès avec une exposition sur l'histoire du hockey du Canadien. Et là, je suis allé les voir et j'ai dit, j'ai une idée pour vous autres. On va faire une exposition sur l'histoire du baseball.
Quel excellent.
Ils ont dit, parfait. Ils disent, t'as-tu des artefacts? J'ai dit, oui, j'en ai 10. J'ai dit, donnez-moi 7 ans. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Donnez-moi 7 ans. Je vais vous bâtir une collection sur l'histoire du baseball. Fait qu'ils ont dit OK. Fait qu'on a fixé des dates dans le calendrier.
Ça, on parle de quelle année? Environ, là.
C'est à peu près 2000-2005, à peu près.
OK.
J'ai dit, donnez-moi 7 ans. Et là, moi, j'avais toute une stratégie. J'ai dit, par contre, ce que je vais vous demander, c'est que une partie des entrées des gens pour venir voir l'exposition va être remis à une fondation. Parce que j'avais une idée derrière ça.
Okay.
Ils ont dit, parfait, on fait ça. Alors là, j'ai approché RDS, le Journal de Montréal, avec Toto Gingras à l'époque, et RDS, j'ai dit, voici mon projet. On va ramasser de l'argent pour une fondation et je veux bâtir une collection. Je veux que les gens qui ont des artefacts m'appellent. Je me prends un numéro de téléphone et là, j'avais de la pub à RDS pendant la grosse année Schumacher-Villeneuve. Parce qu'eux, ils ont des spots de libre. Ils donnent ça à des causes.
Oui.
Fait que mon spot télé passait pendant la course. Fait que c'était vraiment hot.
Ça, c'était l'année que Jacques a gagné.
Exact.
Donc, c'était 97. T'as commencé ça en 97.
Exact. Pour pouvoir 7 ans.
Ouais,
2004-2005. Et là, Toto Gingras m'avait donné de la pub dans le journal. Et si vous avez des artefacts, appelez tel numéro. Et j'avais fait quelques émissions de télé. Et là, t'as pas idée ce qui m'a passé dans les mains, là, en termes d'objets que les gens avaient chez eux, qui possédaient. Et moi, je demandais pas des dons. Moi, j'avais un budget et on a tout acheté. Et on a fait une exposition qui est absolue, qui était un succès fou, qui était d'une au-delà de ce que j'aurais souhaité voir. Tu sais, des contrats, des royaux, des artefacts de Jackie Robinson, de Roy Campanella, Roberto Clemente, les expos. À un moment donné, je m'en vais à Joliette. C'est une femme qui m'appelle, une dame qui m'appelle, elle me dit... Elle dit, j'ai des chandails chez moi. Elle dit, ça vient d'un restaurant qu'on avait qui a passé au feu. Elle dit, venez voir. Fait que là, je m'en vais, je descends à Joliette. Et elle avait, entre autres, le chandail de Claude Raymond quand il avait joué avec les Braves.
Wow!
Avant les expos. Ce qui est arrivé, c'est que le propriétaire, son mari du restaurant, il avait demandé à certains joueurs d'avoir des objets pour qu'ils puissent les mettre sur son mur. Claude avait volé le chandail, puis il avait donné. Mais il ne s'en rappelait plus de ça, Claude. Et il pensait que ça avait passé au feu, tout ça. Et j'ai récupéré ce chandail-là. Claude avait été notre ambassadeur de l'exposition. Et à la conférence de presse, je lui ai remis le chandail.
Comment il a réagi?
Il était sous le choc.
Ah ouais?
Vraiment, parce qu'il pensait pas que le chandail... Parce qu'il n'avait pas le droit, à l'époque, les joueurs de garder le chandail.
Non, effectivement.
Parce que les chandails s'en allaient dans des équipes mineures.
Puis le Québec a une histoire riche en baseball aussi. C'est Jean-Philippe Bertrand qui me disait ça.
Tellement!
Que les équipes de la MLB avaient leurs équipes fermes, là, leurs clubs fermes.
Bien sûr.
Au Québec, ici.
Bien, c'est-à-dire que Brooklyn avait son équipe qui était les Royaux.
Ouais.
Donc, tous les grands joueurs qui ont joué pour les Dodgers ont passé par ici. Tu sais, la Sorda, Clemente, il y a une histoire. Si vous lisez sur Roberto Clemente, personne ne sait que Clemente a joué ici.
Moi,
il était,
pas,
il était caché. Ils sont allés le chercher à Porto Rico. Ils l'ont fait jouer ici parce qu'il appartenait pas à aucune équipe. Brand Shrikey, qui était le directeur des Dodgers et des Royaux en 54, avait été chercher Clemente. Il faisait presque pas jouer, mais toutes les fois qu'il embarquait sur le terrain, c'était un très grand joueur.
Ben non,
et là,
sûr,
55, le draft est arrivé et Brand Shrikey est devenu directeur de Pittsburgh, des Pirates de Pittsburgh. Et quand le choix au draft est arrivé, ils ont choisi Clemente. C'est pour ça que Clemente est allé à Pittsburgh au lieu d'aller à New York.
Là, tu as une casquette des Pirates. Est-ce que tu es un fan des Pirates de Pittsburgh?
Pas du tout.
Non? OK.
Pas du tout.
T'es comme moi, t'es un peu Guidon.
Non, moi, j'ai comme...
J'ai une casquette des
Pirates. Non, c'est parce que c'était un tournoi de golf, le tournoi de Serge Savard que j'ai participé.
Ah, je pensais que c'était le P des Pirates, Colin, Nabin. C'est une très belle casquette.
Non, c'est une casquette, merci. Non, c'est un P pour... C'est quoi? C'est... tes vêtements de golf, pas Prince.
Ping? Ah, ça se peut, Prince. Prince, Ping. Non. Pas mal les deux.
Patate.
Pacaloway.
OK. Alors, on est rendu. Donc, le musée, les objets ont été exposés pendant un an. Et à la fin, moi, mon but, c'était de bâtir une exposition, une collection, pas qu'à reste chez nous, de la donner au musée pour que ça reste dans le patrimoine québécois. Et j'ai remis toute la collection à la fin. Tout ce qu'on a acquis a été donné. Et là, c'est... Je suis triste parce que ils sortent pas. C'est dans les voûtes. C'est protégé, oui, mais on peut presque plus les voir. Là,
non, ça aurait été bon, tu sais, par exemple, dans la discussion du retour du baseball à Montréal, d'avoir ça. Là, on sait que la discussion est terminée, là, présentement, à tout le moins, même si ça fait mal au cœur de voir les plans de stade qu'il y avait à Montréal. Moi, je reste à Griffintown, en plus. Ça aurait été fabuleux d'avoir ça là. Pour rester sur ta collection, tu dis, Greg, si tu voyais les items qui me sont passés dans les mains, y en as-tu un ou deux auxquels tout de suite tu penses, puis tu dis, celui-là, là, lorsque j'ai vu que j'avais cet item-là dans les mains, les genoux m'ont plié, par exemple?
Oui, il y a une famille qui m'appelle, elle dit, on a un cadre dans le garage qui est là depuis 50 ans. Si vous voulez venir le chercher, venez. C'était, et là, j'arrive là, c'est un cadre à peu près un peu plus gros que la télé. C'est quoi ça? C'est une 55, ça?
Une 50, ouais, à peu près.
À peu près, un peu plus gros que ça. Un cadre de bois absolument magnifique, mais qui avait pogné l'eau un petit peu à la base, donc qui commençait à pourrir. Et à l'intérieur de ça, c'était la photo d'équipe des Royaux de Montréal en 1892,
Seigneur,
avec des photos individuelles, et il avait gagné le championnat cette année-là, et c'était peint à la main autour de ça. Champion de la Ligue, c'est absolument... C'était une œuvre d'art. Et c'est sûr que ces pièces-là, j'aimerais ça les avoir aujourd'hui. Là, mais je suis content quand même que c'est bien protégé. Et ils ont tout restauré, la base, ils ont tout refait ça, protégé contre la moisissure. C'est une pièce là, folle. J'ai eu le contrat de Roy Campanella. Roy Campanella qui a été le deuxième... il y a eu Jackie Robinson qui a joué en 46,
ouais,
le premier noir. Après ça, tu as eu Campanella en 47 qui a joué pour les Royaux, qui était receveur, qui était une grande vedette pour les Dodgers et qui a eu un accident de voiture puis qui est devenu paraplégique par la suite. Ouais. J'ai retrouvé l'uniforme de Jean-Pierre Roy qui, en 1945... qui était un des trois Québécois à jouer qui a joué avec Jackie Robinson, qui était avec la même madame dans l'incendie dans le restaurant Joliette, et qui avait ce chandail-là aussi. Des balles signées, une balle signée des Royaux en 1946, et ça, c'est l'année de Jackie Robinson, comme si elle avait été signée hier.
Incroyable.
Attends. Est-ce que tu savais que Babe Ruth était venu jouer un match à Montréal.
J'ai entendu parler de ça.
Ouais.
J'entends, mais pas assez te dire oui, mais il me semble que ça me sonne quelque chose.
Okay. Babe Ruth est venu jouer un match d'exhibition à Montréal. C'était au stade Atwater, qui est à côté du Forum, en 1926. Okay.
Okay.
Et il était lui et un autre joueur qui s'appelait Shock. Parce que j'ai vu, je ne l'ai pas acquis, mais j'ai vu un programme signé par les deux de cette année-là. Mais il est revenu en 1928 avec Lou Gehrig, jouer un match d'exhibition à Gatineau et à Montréal. Et j'avais une balle signée par l'équipe qui a joué avec Gehrig et Babe Ruth. Le chapeau du maire sur une photo que Babe Ruth a mis sur sa tête.
Ben oui, on va.
Et une photo magnifique de cette journée-là. Ça, c'était... Écoute, il y a des objets à Montréal de Babe Ruth qui existent. Moi, j'en ai vu trois. Mais il y en a, c'est sûr que c'est ça existe.
C'est incroyable. Quand tu appelles ça des... C'est la première fois que j'entends quelqu'un qui parle d'artefacts. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment
oui.
ça.
Mais la carte...
Des morceaux d'histoire.
Une carte signée là, avec un morceau de chandail, là, c'est un artefact, ça, là. C'est une pièce de chandail.
T'as raison. Ils sont juste tellement modernes qu'on les voit pas comme telles.
Exact. Oui, mais t'as sûrement des cartes de Babe Ruth avec des bouts de chandail aussi qui existent.
Ça, c'est une question à poser à Yannick. Je le sais pas.
Ouais.
Je sais pas si à ce moment-là, on faisait ça.
Non, est-ce mais il y a des chandails qui ont été achetés dans les dernières années et qui ont été découpés. Là,
je sais qu'on a sorti sa Bowman. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de patch dedans ou quoi que ce soit, là, ou jersey. Mais c'est une très bonne question.
Tu sais, m'a t'en posé une question, toi, au niveau émotif, là. Okay. Est-ce que tu penses que de prendre un chandail, une pièce historique, mettons, un chandail de Babe Ruth dans ce cas-là, qu'on découpe en morceaux pour faire 200 cartes, est-ce que tu es plus en faveur de ça, qu'on détruise un chandail qui est une pièce d'histoire, qu'on en fasse, qu'on fait participer 200 personnes avec cette émotion-là?
Ouais.
Tu me comprends-tu?
Ben oui, je te comprends. Puis la question, t'as entendu mon soupir, la question est pas facile. La question n'est pas facile parce que, effectivement, oui, c'est une pièce unique. T'sais, on l'a vu avec le documentaire Golden là, sur Netflix, où est-ce que ces chandails-là se vendent des millions et des millions de dollars. Oui, c'est une pièce de collection unique, mais de la séparer avec 200 personnes qui ont un petit morceau de chandail-là, moi, je suis bien partant pour ça, tu sais.
Ouais.
Comme on l'a fait avec les recrues au baseball présentement, je sais pas si tu as vu ça, mais le fameux morceau sur leur chandail MLB Debut de leur premier match a été mis dans les cartes recrues cette année. Mais en même temps, c'est un gros débat. Moi, j'aurais tendance à te dire oui pour le côté, justement, il y a 200 collectionneurs qui peuvent en profiter. Ce sont vraiment des pièces uniques. Ou l'autre bord de dire non, c'est une pièce d'histoire qui peut pas être touchée. C'est comme ici, les édifices patrimoniaux à Montréal. C'est comme, dire, tant qu'à ça, tu vas-tu défaire la Joconde, ben, mettre dans 200 parties? C'est difficile. T'en penses quoi, toi?
Moi, je garderais ça intact. Parce que moi, j'étais un gars d'histoire. T'sais. Fait que moi, je suis là pour que la pièce soit dans son authenticité, tu sais, que c'est ce chandail-là qui l'a porté, tu sais, avec lequel il a joué.
Ouais.
Je suis plus pour ça. Mais en même temps, toi, t'étais un gars de cartes. Fait que t'as ce côté-là d'avoir la carte puis d'avoir la... Je sais pas. Mais d'ailleurs...
Mais j'avoue que, tu sais, dans le cas de Babe Ruth, qui est un icône du sport... Du baseball, du sport aussi, qui est plus grand que le baseball en soi. T'sais, il y a tellement plus de chandails de lui que, tu sais, je regarde par exemple, cette année, on a sorti des nouvelles cartes de Wayne Gretzky avec un chandail des Oilers qu'il avait porté lui-même. Tu sais, il y en a d'autres, des chandails de Wayne.
Mm.
Des chandails de Jackie Robinson, des chandails de Babe Ruth.
Il n'y en a pas des tonnes.
Portés comme ça, il n'y en a vraiment pas beaucoup.
Mm.
T'sais, alors, je pense que ce serait un sacrilège de défaire une pièce comme ça. Mais en même temps, comme je dis, si 200 collectionneurs peuvent avoir accès à ça, t'intéresses ça aussi. Ouais. Mais le prix ne baissera pas non plus. Là. C'est-à-dire que ce chandail-là, ça vaut combien, par exemple? Divisé par 200, quand même pas achetable pareil. Là,
exact, t'sais. Exact. Puis, tu sais, quand on revient dans la philosophie de collection, tu sais, j'écoutais... En tout cas, bref, je vais juste finir le musée. On a remis la collection. La collection est là. Et j'espère que...
Quel accomplissement.
J'espère... Non, mais je suis content d'avoir fait ça.
C'était tout un trip. T'sais, c'est un bel accomplissement, mais pour toi, ça devait être tout un trip aussi. Là.
Ah, mais moi, c'était de me retrouver chez les gens puis qu'ils me racontent.
Ah.
Qu'ils me racontent. Moi, je me suis lié d'amitié avec Camille Desroches.
Non.
Camille Desroches, c'était le Chantal Maccabée.
OK.
Du temps de Maurice Richard.
Okay.
Du temps des Royaux. Il travaillait, dans le temps des Royaux, il travaillait pour la presse canadienne. C'est un journaliste. Puis il est devenu relationniste pour le Canadien de Montréal. Et lui, il avait plein de choses chez lui. Et il était très, très proche de Jackie Robinson. Et moi, j'allais dans son sous-sol. C'était rempli d'affaires. On jouait au domino. Puis je disais, Camille, je dis, racontez-moi des histoires. Parlez-moi de ça. T'sais. Puis il me racontait... des histoires sur Maurice Richard, des histoires sur...
incroyable.
Tu sais, si t'as vu le film 42 Jackie Robinson, il m'avait tout conté ça déjà, là, que Robinson, des fois, il pouvait même pas aller aux toilettes à la même place que les Blancs. Puis, et il avait, entre autres, il me l'a donné, parce que je l'ai remise au musée, une lettre que Jackie Robinson lui a envoyé lors du camp d'entraînement en 47, l'année suivante de Montréal. Il lui a dit, si je ne fais pas l'équipe, ce serait, il n'y aurait aucun problème à ce que je revienne à Montréal parce que j'ai été tellement bien accueilli par la population ici. Ils ont gagné la petite série mondiale, puis ils l'ont pris au bout de son des bras, ils l'ont sorti du stade, là, puis c'était une star. Là. D'ailleurs, je t'ai amené une photo ici dans ma collection qui est très particulière. Si tu regardes ça, OK.
C'est Jackie Robinson.
En arrière, c'est Camille, là, c'est Camille Desroches en arrière. Là.
OK, sur la photo, c'est lui.
En arrière,
avec le ballon football.
Parce qu'elle vient de là. Mais qu'est-ce qu'elle a de... Quelle émotion cette photo-là t'apporte, Greg, de particulière? Pourquoi, pour moi, elle est spéciale, cette photo-là?
Ben, est-ce que c'est parce que c'est Jackie Robinson? Il reçoit le traitement, là, vous pouvez voir aussi, comme un traitement de massothérapie ou d'un physiothérapeute ou quelque chose comme ça. Parce que c'est un joueur noir qui a le droit au même traitement à ce moment-là que ses coéquipiers?
Massé par un blanc. Tu comprends? Fait que tu vois-tu que ça, t'aurais pas vu ça ailleurs, là, tu sais. Nous autres, ici, au Québec, on a cette ouverture-là par rapport aux immigrants. Et ça, pour moi, c'était... Tu sais, c'est le début... C'est le début d'une ouverture dans le monde du sport. Tu sais, le premier noir à jouer, là... Avec des Blancs, là, c'est pas aux États-Unis, là, c'est au Québec. Et c'est pour ça que Branch Rickey a amené, a décidé de tenter sa chance parce qu'il savait que le Québec, on aurait un accueil pour cet athlète-là.
Ça, c'est alors, un patrimoine dans lequel il faut, faut être fier de ça.
Bien, tout à fait. Et moi...
On a bien des raisons de chialer sur...
Oui, mais non, mais...
Québec, mais...
Non, mais ça, c'est quelque chose. Très bon non, côté. Mais c'est pour ça qu'on est, on a une terre d'accueil de fous ici. Et on parlera pas de politique, parce que ça ouvre une porte.
Non, on tombera pas là-dessus.
Mais ça, ce que je t'ai montré, m'a, après avoir vécu le baseball, une fois que j'ai tout donné, j'ai vidé ma maison, tu sais... Parce que tu sais que nous, les collectionneurs, on est des malades mentales.
Tu sais, ah oui, tu sais qu'on a des malades mentales. Juste ce que tu me dis là, tu sais, ça me fait penser à moi qui étais un peu excessif dans mes projets, dans mes affaires. Puis je me dis, je vais aller jusqu'au bout, puis tu sais, toujours avoir...
Mais on n'est jamais content.
C'est ça, exactement, tu sais. Toujours... c'était Bruce Lee qui disait ça... Soit content, mais jamais satisfait. on est un peu de même, mais ce projet-là, avec le musée McCord, c'était un peu ça.
Mais ça m'a guéri.
Ça de façon... Ah, ça t'a guéri.
Ça m'a guéri. Parce que je t'explique, Greg. C'est que quand tu es un collectionneur et excessif, ça va ensemble.
Ah, 1200%.
OK, si t'es un vrai collectionneur, t'es excessif. Parce que souvent...
On est fou.
La pièce qui t'intéresse, pas celle que t'as, c'est la prochaine que t'as pas.
C'est ça.
Tu veux toujours avoir la suivante. Et moi, je l'ai vécu là-dedans parce que j'accumulais, puis je me suis ramassé à un moment donné, c'est que l'appart était... C'était fou, mais j'avais un plaisir quand même à regarder telle affaire puis à documenter tout ça. Mais c'était trop. Alors, quand tout est parti, ça a fait... Oh, oh. Puis quand la balle que j'avais achetée qui venait d'un tiroir chez un monsieur, puis qu'on la retrouvait dans une vitrine avec un éclairage, avec une petite carte en dessous qui donnait l'histoire...
Ça m'aurait découvert ces objets-là.
Oui, puis jamais... ça aurait eu cette ampleur-là chez nous. Tu sais. Et là, j'ai atteint vraiment le maximum d'émotion au travers de ma collection que je voyais là. Puis je faisais « wow, tu sais, c'est correct, je l'ai fait. Tu » sais.
Puis là,
ça repartit.
Ben c'est ça. Parle-moi de ta philosophie à toi, de ce que tu as. Là, il y a des photos, tu as des balles. Là, tu m'as amené une petite partie de ta collection.
Oh, ben, rien, mais ce que j'ai choisi, ça rentre dans la philosophie de ce que je collectionne, où je te dis c'est entonnoir, c'est orienté.
Tu l'orientes?
Il y a trois affaires que je collectionne.
OK.
OK? Que j'ai recommencé à accumuler, mais pas en folie. Là. Tu sais, je me promène, je m'amuse là-dedans. Là. J'ai recommencé à chercher des objets, c'est Royaume de Montréal.
Mm-hmm.
OK? Avec Jackie Robinson, qui est presque pas trouvable. J'ai sur Ken Dryden.
OK.
Parce que Ken Dryden...
Là, j'en vois une, là.
Ouais, mais attends, on va pas trop vite, là. Parce qu'il y a un punch. Ken Dryden...
J'ai vu une carte signée.
Ken Dryden est inaccessible. OK? Il signe pas tout ça. Et il a beaucoup de valeur auprès des collectionneurs.
Ouais.
C'est sa carte recrue vaut très cher. Et la troisième chose dont je vais te parler aujourd'hui, c'est le 1 de 1.
OK.
Parce que les 1 de 1 sont totalement... inaccessible. On le sait, à moins de tomber dessus par hasard. Ouais. On peut pas les acheter parce que c'est toujours les plus riches qui les achètent. Puis deuxièmement...
Puis quand ça sort, tu veux pas manquer ta chance. Donc, tu vas mettre tout ce que tu as, peut-être même payer plus.
C'est ça.
Pour l'avoir.
Puis tu l'as pas. T'en as-tu une d'un, toi?
Moi, j'en ai une.
Laquelle?
C'est drôle parce qu'on est tellement... Tu sais, on est dans le même monde de collectionneurs, mais... Toi, tu es dans le vintage, dans des objets, dans des artefacts. Moi, c'est du hockey moderne. J'ai pas beaucoup. Là, je m'économise pour m'acheter la 79 Gretzky. Un jour, je vais tomber en amour avec une de ces cartes-là et je vais vouloir en avoir une. Mais c'est la une de une, la Future Watch Auto Patch du jeune défenseur des Kings, Brent Clark. C'est lui, si t'as écouté le podcast, tu sais que c'est lui que je collectionne le plus. Puis c'est celle-là que j'ai. Puis les gens savent tellement que je collectionne Brent Clark que c'est deux, trois gars qui m'ont envoyé ça en me disant, écoute, ça te prend absolument cette carte-là. Puis finalement, j'ai négocié, je l'ai eu. Puis le lendemain, il y a un gars qui crée du contenu en anglais sur des cartes qui est absolument fabuleux, un de mes bons amis, qui dit... Je suis sûr que c'est toi qui viens de l'acheter, mais j'essayais d'aller la chercher. Il voulait y aller. Si je l'avais pas, c'est une question d'heure, c'était lui qui l'achetait.
Pour lui-même ou pour toi?
Pour lui-même. Non, pour lui-même.
OK. Ben, moi, des 1 de 1, j'en ai. Bon, comme je suis pas tellement dans la carte, j'en ai pas, mais j'ai décidé de m'en créer.
Okay.
C'est ça que je voulais partager aujourd'hui un petit peu, puis je reviendrai pour te parler d'autres affaires. Là, mais alors, ça...
Écoute, on a tellement d'affaires à jaser, on est déjà...
on est rendu à combien, là?
On est à 37 minutes.
Parfait, OK. Alors, des 1 de 1, j'ai décidé de m'en créer moi-même. Et là, j'ai réussi à acheter une collection d'une dame qui est décédée, qui elle, allait prendre des photos... des athlètes, des joueurs de hockey, des joueurs de baseball, des artistes dans les années 60, 70, et elle retournait pour faire... Elle allait faire développer les photos, puis elle retournait les faire signer.
Wow!
Fait que ça, c'est trois étapes, ça. Je te prends en photo...
Je vais développer.
Je vais l'amener à, je sais pas c'était où, au Kodak, chez Kodak à l'époque. Tu ramasses la photo et là, tu souhaites revoir le joueur pour
quel
lui faire
processus.
Signer. Okay? Et ça, la dame avait ça. Mais j'ai acheté toute la collection de photos qui ne sont pas signées. Là. Donc, j'ai une collection de photos du forum, du Stade Jarry, des artistes, de Jacques Brel à Fernandel, à Rusty Stubb. Ça va partout, là. Et je me fais mes propres un d'un. Fait que je t'en ai apporté quelques-unes de la dame. Et je vais te montrer après ça où je m'en vais avec ça. Alors, si je te montre, regarde bien ça. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est Rusty Stubb qui était la première grande vedette de baseball pour les expos. Donc, c'est Rusty Stubb. C'est une photo, une seule, qui est signée par Rusty Stubb. Moi, je trouve ça absolument magnifique.
Ben, ça l'est magnifique. C'est beau. Je sais pas si. Attends, je vais essayer de le montrer à la caméra ici. Voilà, vous voyez la photo de Rusty Stubb ici.
Et... attends, regarde sur ce plan-là. Je pense que tu vas réussir à la voir.
Oh, je pense que tu vas réussir à la voir. Tu vois ici.
Donc, moi, je trouve ça...
J'adore sa signature. C'est la première fois que je vois une signature de Rusty Stubb. Je l'aime beaucoup, beaucoup.
OK. Alors, ça, puis si tu vois, je vais t'en sortir. OK, je vais t'en sortir. Bon, la dame allait souvent voir les joueurs dans des tournois de golf. Tu sais, souvent, mettons, il y avait des tournois invitation pour des fondations.
Oui.
Fait que ça... Donc, attends un peu, là. Donc, elle a pris la photo, elle l'a fait développer, puis retourner le voir.
C'est Bobby Orr?
Ouais. Malade.
Wow! Quelle coupe de cheveux aussi de Bobby Orr.
Mais ça...
Ça, on a un collectionneur qui est avec nous, qui est un de nos membres Patreon, qui est, je crois, le plus gros collectionneur de Bobby Orr sur la planète. Ouais, je pense qu'il y a comme 250 cartes signées de lui. Quelque chose de même.
OK.
Collection fou, là.
OK, il achète tout.
Presque tout, effectivement.
Et ça, tu vois, ça, c'est une photo. Il n'y a pas de négatif. C'est la seule photo. Donc, pour moi, c'est un d'un.
C'est magnifique, ça, là.
Tiens, je te parlais de Ken Singleton. Regarde si c'est beau, ça. Ça, c'est en couleur. C'est beau, ça?
Oui.
Ken Singleton qui a été changé.
La qualité de la photo. La montre ici. Incroyable.
Pour ton gars qui collectionne les gardiens de but.
Rogie Vachon.
C'est beau, ça?
Avec les Kings. Hey, quel... Wow!
Mais c'est le fun, là. Tu sais, tu vois, fait que ça, c'est la seule
chandail, le chandail original des Kings.
Exact, exact.
La fameuse couronne.
Fait que moi...
Tu parles à un gars des Kings, par exemple.
Ah ouais,
tu
c'est
sais,
ça,
là.
Hein?
Wow.
Ben, écoute, si tu veux... Si t'aimes ça, je vais regarder dans la boîte, tu me le diras, puis m'a sorti des photos des Kings.
Ben,
Cassien Vachon, des fois, il vient à Montréal. Puis, en tout cas, bref. Ben, pour te dire, moi, j'avais. Ben, dans ma série de photos, j'avais ça. Cet été, j'ai participé à un tournoi de golf où il y avait des joueurs du Canadien. Fait que j'ai amené cette photo-là parce que je l'aimais beaucoup. Puis, je l'ai fait signer par les deux.
C'était ma prochaine question. Est-ce que toi, tu as réussi à en faire signer dans la collection? Ça, c'est Larry Robinson.
Puis, Yvon
Lambert, les deux.
Ouais.
Avec
Guy Lafleur.
Ouais, Guy qui est sur la photo.
Ouais. Fait que je trouvais la photo intéressante. Puis,
Mais qu'est-ce que les gars t'ont dit en signant la photo, par exemple? Yvon et Larry Robinson.
On se croise souvent dans des événements. Larry Robinson, j'avais envoyé le Marshall. J'ai donné la photo au Marshall qui se promenait de. J'ai dit, peux-tu aller faire signer ça à Larry Robinson? Puis, parce que moi, je suis super timide.
C'est dur, hein? Il y a comme une anxiété qui arrive par rapport, tu sais, puis je trouve ça drôle que tu dises ça parce que t'es une personnalité publique. Des autographes, t'en as signé dans ta vie, innombrables, c'est sûr et certain.
Ça me fait plaisir.
Ben, c'est ça, t'es content de faire ça. Mais toi, d'aller voir quelqu'un...
J'ai toujours l'impression de déranger.
Ben, il y a des gars qui, eux autres, ça les dérange pas pantoute. Tu sais, je dis, hey, moi, mettons, ça me rend anxieux ou ça me stresse, je suis mal à l'aise d'aller voir un joueur, d'aller voir un artiste, puis de demander une photo ou une... Mais, tu sais, si quelqu'un... Écoute, j'ai dû prendre 5 photos dans ma vie, signer 2 autographes à peu près, mais tu sais, ça fait tellement plaisir quand tu te le fais demander, puis on savait à quel point Guy, ça lui faisait plaisir.
Tout à fait.
Et tous les grands comme ça. C'est vraiment drôle d'avoir cette relation-là, de dire... Je trouve ça drôle, on pense pareil comme ça, moi aussi. J'ai vraiment de la misère. Je me promène, je vais voir des joueurs de la Ligue nationale. On a un autre podcast ici qui s'appelle Les Visiteurs, puis je me promène partout, puis... tu sais, je me dis, est-ce que je pourrais demander, tu sais, avoir un chandail comme ça, de le signer, quoi que ce soit. Genre, je me dis, demande-le aux gars, ils vont te le faire. Ouais. Ça leur fait plaisir.
Bien sûr.
Je suis incapable de le demander.
Ouais.
Incapable.
Ben, tu sais, c'est. Je sais. Tu sais, je te donnais l'exemple de Ken Dryden. Toi, tu parraines une fondation. Tu donnes de l'argent à.
On donne de l'argent à bien des fondations. Bon, ben, moi, aime ça faire ça.
Moi, j'en parraine une petite fondation dans les cantons de l'Est, une dame que je supporte depuis plusieurs années. Puis, je vais y organiser cette année un petit encan. Parce que, bon, versus COVID, ça a été difficile de ramasser de l'argent, tout ouais. ça. Alors, j'ai donné une photo aux Canadiens, puis j'ai demandé, pouvez-vous l'envoyer à Ken Dryden? J'ai pris une chance. L'envoyer à Ken Dryden pour lui faire signer, puis accepter.
Wow.
Parce qu'on va la vendre, puis on va donner de l'argent à la fondation.
Il faut absolument que tu nous envoies le lien pour ça, qu'on puisse le mettre sur chaude carte, ça peut aider.
Bien sûr, regarde ça. Regarde la beauté de cette photo-là.
Oh my God.
C'est beau, ça? Tu vois-tu la vie de cette photo-là? Comment ça,
ben, ça a été pris en quelle année, ça?
Ça, c'est les années, début 70.
Mais la qualité de la photo,
ouais. c'est elle est proche, elle est proche, là.
Eh oui.
Tu sais?
Aïe, aïe.
Fait que là, pour ta fondation... Ben, regarde, bon, ben, je t'en montre d'autres. Brad Park, qui toujours dans le concept d'un. Tiens, je te montre ça, OK? Dis-moi ce que tu vois... Dis-moi ce que tu vois.
Ben là, c'est Major League Baseball Players. C'est commandité par une bière que j'aime beaucoup qui s'appelle Michelob. C'est pour le Alumni Golf Series.
Tournoi de golf.
Mais là, demande-moi pas de reconnaître...
Il y en a un là-dedans qu'il faut que tu reconnaisses. Le blond.
C'est-tu Steve Rogers?
Non, c'est Mickey Mantle.
C'est Mickey Mantle?
Ouais.
Le blond, le deuxième dans la rangée ici, là?
Est-ce que lui, là?
Ah, lui. Je l'ai pas reconnu. Je pensais que c'était Steve.
Alors, pourquoi je te montre ça?
Cette photo-là, elle n'existe pas ailleurs?
Non, ça n'a pas d'intérêt plus que... Mais ça vient valider un autre objet que j'ai. Ça, c'était son ticket.
Ben voyons donc.
Signé par lui. Fait que ça, c'est un de un.
C'est incroyable.
Ça, c'est un de un.
Je capote sur ta collection. Regardez ça. Le billet signé par Mickey Mantle. Il y a un collectionneur, Stéphane Lévesque, qui était venu sur le podcast. Je ne sais pas si tu es tombé sur cet épisode-là, mais il est allé au National lorsque la carte de Mickey Mantle, la SGC 9.5, ouais. est en vente. Puis, elle était là au National sur la table. Il est arrivé à la table du où est-ce qu'il l'avait. Puis, il a dit, oh, ouais, prends-la dans tes mains sans problème. Puis, quand il l'a eu dans ses mains, il ne savait pas que ça valait ça. T'imagines-tu? Moi, j'aurais même pas été capable... de la tenir dans mes mains. À 12,5 millions de dollars.
Américains.
Oui, en plus, effectivement. C'est incroyable, ça.
Et, bon, que si...
Je ne vais pas la mettre sur tes photos à côté.
Tu sais, je vais te parler de...
Il faut qu'on se garde du temps que tu me parles de ta carte recrue, par exemple, aussi. Là.
Oui, on finit avec ça. Je vais te parler... Ça, je vais te faire... Combien de temps qu'il reste?
Il nous reste 10 minutes.
OK, je vais te faire découvrir quelque chose. OK?
C'est pas mal ça que tu fais depuis une demi-heure.
Qui n'est pas un de un, mais ça, c'est typiquement québécois. Puis je t'encourage beaucoup à aller fouiller là-dedans.
Okay.
J'encourage les gens à aller fouiller là-dedans. Ça s'appelle les parades sportives.
OK.
Tu connais-tu ça?
Non.
Les parades sportives, ça, c'est Paul Stuart, qui est un ancien boxeur, qui s'est intéressé à beaucoup de disciplines sportives et qui faisait des petites feuilles qu'on pouvait se procurer.
Okay. Okay?
Il a touché à tous les sports olympiques, le hockey, le baseball, le football, et évidemment les royaux. Et donc, il y a... je peux te montrer celle-là ici, qui est une parade sportive en 45, parce qu'il y avait 3 Québécois qui jouaient pour les royaux à ce moment-là.
Et le chandail.
OK, oui, il y avait le chandail fluo là, à ce moment-là.
Le chandail, aïe. Gladurois et Breard.
OK, alors ça, c'est 45, tu vois. Mais celle-là, je viens de l'acheter. Et celle-là, elle est excessivement rare. Puis elle est en condition parfaite. Ça, c'est la véritable photo recrue de Jackie Robinson en 46 à Montréal.
Mais ça, quand on dit, là, t'es pas obligé de répondre. Mais quand tu dis, elle est excessivement rare, c'est une copie qui est super belle, le centrage
est
très, très beau, la photo est parfaite. Combien ça coûte?
Je sais pas. Je sais pas, parce que on l'a envoyé à PSA, puis ils ont refusé de la grader.
OK.
Fait que je peux pas te dire. Moi, pour moi, je sais pas.
OK. C'est une question, parce que je suis tellement pas dans ce monde-là, comme tu sais. Là, c'est deux mondes qui se rencontrent en ce moment. Là.
Ouais.
Et tu sais, moi, j'ai jamais acheté ce type de photo-là de ma vie. Là. C'est probablement un article qui m'aurait intéressé l'ayant vu dans une table, mais j'ai aucune idée. On parle-tu de dizaines de dollars?
Allez voir sur eBay, vous allez avoir une idée, mais il y en a pas. Il y a des copies, là, il y a des prints, mais les originaux, je sais pas. J'en vois pas. Et ça, c'est... Évidemment, tu sais, eBay, c'est la façon qu'on...
Oui, oui, ça, c'est le Saint Graal pour tout le monde. Ça,
ben oui, ben oui. Mais j'ai aucune idée, je n'ai pas vu passer. Donc, alors, ça... et là, je veux parler d'un gars que j'ai rencontré, toujours dans mon concept de un de un.
Ouais.
Moi, j'avais une signature que j'ai achetée de Ken Dryden.
OK.
OK, dans un show. Fait que j'avais la signature qui était validée, tout ça. Et je voulais avoir une carte de Ken Dryden, puis c'est Louis-Philippe que tu connais.
Ben oui, Louis-Philippe qui a fait la carte de Yannick et moi.
Oui,
on a
que
vendu
vous avez vendu.
Enchères,
c'est ça.
Exactement. Et qui en a fait plusieurs autres. Il m'a fait une carte de Drew Doughty avec une dent dedans. Il est absolument fabuleux.
C'est un artiste, ce gars-là.
Ben oui.
C'est un artiste. J'ai pas le nom de sa compagnie. Il me dit, dis Louis-Philippe.
Oui, je pense pas qu'il y a de nom de compagnie. C'est Louis-Philippe Brunet?
Oui.
C'est ça. Bon,
donc, si vous allez dans un show de cartes, il est là.
Oui.
Et j'ai donné la Ken Dryden. Il m'a fait une de une. Elle est. J'étais sur le bord des larmes quand je l'ai vu. Regarde si c'est beau.
Hey.
C'est beau, hein? Super. Regarde les deux côtés.
Un petit peu. Avec les coupes Stanley.
Puis il a mis une de une, tu sais.
Ouais, une de une dans le coin en bas à droite. Vous pouvez la voir ici.
Ouais.
Je la monte à l'autre caméra comme ça.
Louis-Philippe, il fait du travail merveilleux. Je l'ai mis sur la page Facebook de Ken Dryden et c'est vraiment wow. Alors, ça et.
Ta carte recrue, là
ouais,
veux-tu me dire recrue. Comment ça se fait que tu as une carte recrue?
Ben moi, j'ai en 96, j'ai été repêché par les Expos de Montréal.
C'est vrai, comme Tom Brady.
Parce que j'étais un ancien, comme Tom Brady. Et j'ai fait le camp d'entraînement et j'ai ma carte recrue.
Tu jouais à quelle position?
J'étais deuxième but.
Ah ouais?
OK. Puis plus jeune, j'étais lanceur. Mais je me suis brisé le bras en lançant.
Mais 96, ça veut dire qu'on t'a repêché... Pour, c'était Mike Lansing qui jouait au deuxième but à ce moment-là, non?
Non, il est arrivé après.
T'es arrivé après 96.
Et j'ai fait le camp, OK? Et je me suis pas rendu plus loin. Mais j'ai marqué 4 recrues.
C'est
puis j'ai marqué en arrière, si le baseball ne fonctionne pas, il y aura toujours la magie. OK. Évidemment, Greg, ce que je viens de te dire, c'est de la bullshit.
Non, t'as pas fait ça?
J'ai jamais été repêché.
Ah, là!
Mais j'ai fait un camp d'entraînement qui s'appelait le Fantasy Camp.
Comme ce que JP Bertrand fait, je sais pas si tu connais JP,
oui.
Là, qui fait à Boston, lui, il l'a fait 2 fois.
Bon, alors à Montréal, je l'avais fait, parce que moi, j'étais maniaque de baseball, puis j'allais souvent en Floride, donc j'avais fait le camp d'entraînement, et ça avait été une semaine, c'était juste avant le début du camp des Expos. Alors, nous, on avait la chambre des joueurs. On était traités vraiment comme un camp d'entraînement. Nos chandails qui nous attendaient. Il y avait... écoute, moi, j'étais un petit peu timide. J'arrive là, OK? Puis, c'était très anglophone. Mon anglais n'était pas très bon. Mais, et là, j'étais sur le bord, puis il y avait des joueurs des Expos là, qui sont là. Il y a une dizaine de joueurs qui sont là. Tu avais Valentine, Claude Raymond... Et là, la première journée, j'étais sur le bord, tout ça, les gens s'entraînaient, tout ça, puis il dit, il y a un gars qui me tape. Il dit, come on, on va se pitcher. Puis c'était Gary Carter.
Ah! Oh!
Fait que là, ma première journée, je me pitch avec Gary Carter. Et je fais, my God, je dis, ça te dérangerait-tu de te mettre à genoux? de te mettre en catcher? Et là, ça avait été une semaine tout à fait magique. Là. J'avais été repêché parce qu'il faisait des équipes. Il faisait 4 équipes, donc tu avais 2 capitaines. Moi, Carter Et Claude Raymond m'avait repêché. Donc, j'étais dans l'équipe. Il y avait Billy qui était là. Ah. Tu sais, à un moment donné, j'étais au bâton contre Billy. Je disais, ah ouais, give me your curve. Ah ouais. Et là, je te jure, là, la balle, elle s'en vient vers toi. Là. Puis là, je me tasse. Puis, à la dernière seconde, elle rentre directement au centre.
Ah non, c'est juste de voir les balles rentrer. C'est incroyable ce que les gars sont capables d'accomplir.
Alors, bon, ça, il n'y en a pas beaucoup. J'en ai à peu près une dizaine. J'en ai donné une à Dom Pocket. J'en ai donné une à Max Wien parce qu'il aime,
ben oui.
Il aime les cartes aussi.
Ah oui, alors, je ne savais pas que c'était un collectionneur.
Oui. Et puis là, bon, écoute, tu peux aller chercher 50$ là-dessus pour ta fondation.
Eh hey, bien, c'est sûr.
Mais elle est belle.
Elle est super belle. Les Big League Cards 1996. Si le baseball ne fonctionne pas, il y aura toujours le match.
Avec un sourire.
Il y a eu Tom Brady puis Alain Choquette. C'est capoté.
Si jamais ça peut ramasser quelque chose.
Ben écoute, c'est sûr. On en fait tout le temps des petits trucs comme ça. Puis c'est le genre de truc que les collectionneurs y embarquent. Puis ça donne un beau don pour des fondations. Puis Alain, merci pour ces belles histoires-là. On n'a même pas eu le temps de faire la moitié du tour qu'on voulait faire. C'est sûr qu'on te réinvite dans les prochaines semaines. Là, es-tu en tournée en ce moment? Là, t'as un spectacle ce soir?
Mais... Non, mais moi, je fais de l'événementiel. Là, c'est okay. Ce qu'on appelle du corpo.
Dernier spectacle, je l'ai vu.
C'est vrai?
Oui. C'était en 2019? 2018?
Dis-moi où, à quel théâtre?
C'était au Cégep, Collège de la Salle.
Avec la Salle?
Oui.
OK, ouais, c'est ouais, après la pandémie ou...
C'est juste
ou
avant.
Juste avant, OK. Juste avant. Après ça, on a arrêté pendant un bout de temps, puis on a repris. Ça, c'était mon avant-dernier show où je devais arrêter complètement. Puis là, mon producteur m'a demandé, ça te tente-tu d'en faire un autre? Je fais, oh my God. Mais j'encore la flamme, tu sais, j'encore comme genre.
Moi, j'ai trippé bien raide, là. J'ai pas besoin de dire ça. J'ai trippé bien raide au dernier show. C'était vraiment le fun.
C'était gentil. Bon, c'est une très, très belle soirée. C'est gentil. Puis là, on est en pleine écriture. On est en train de créer le show et je m'amuse beaucoup. On commence en septembre. On s'installe à Sainte-Agathe, au Patriote, pendant une semaine.
Ah, ça, c'est un beau théâtre, ça, là-bas.
Ben, c'est surtout qu'ils ont tout rénové.
Ah oui?
Tout est refait. Puis moi, j'étais un gars du Nord, moi, Saint-Adèle, fait que c'est tout mon patelin, ça. Fait qu'on s'installe là en résidence pour une semaine, puis après ça, ben on repart, puis j'ai à peu près une centaine de dates par après. Puis on verra, là, tu sais, moi, je vais à 60 ans, on vit ça un jour à la fois. Puis je m'amuse, puis des petits projets par-ci, par-là, mais...
Ben écoute, c'est
certain. Et je m'entraîne tous les jours en... Tu sais, il y a toi que j'écoute, il y a le podcast de... sur les recrues là,
Mathias.
De Mathias qui est génial.
Ben, il est passé tantôt nous dire bonjour, là, si tu l'as vu dans vite là, ici.
Ah non, j'ai pas vu.
Il est passé, il est venu voir sa chronique okay. avec Martin.
Vous faites une super job. Puis,
ben, merci.
C'est un plaisir. Puis pour moi, mais ça, vous faites partie de ma vie parce que c'est dans le quotidien. Puis, très honoré d'être là aujourd'hui.
Pour moi, ça, c'est le plus beau compliment de dire je prends une heure de mon temps. Puis je vous écoute, puis j'ai du fun.
Mm-hmm. Je vous comprends pas, par exemple.
Je comprends rien, mais j'ai du fun. Écoute, merci Alain. Et pour moi aussi, c'est un honneur de t'avoir puis de voir tous tes items aussi. Je te dis, Yannick va écouter l'épisode, il va capoter de ne pas avoir été là. Mais on refait ça avec lui, c'est sûr et certain, avant que tu commences ta tournée au mois de septembre. Puis je me promets d'aller voir le spectacle également.
Ben,
aussi,
je t'invite, puis bon voyage, profite bien.
Merci, puis, merci bien gros.
Si tu veux parler de... pas planter en carte, mais je peux t'amener ailleurs.
Ben écoute, moi parce j'ai de collectionneur... voyagé pendant une heure, là, puis j'ai eu tellement de plaisir.
Puis tu vois, tu sais, je suis pas tant en carte que ça, puis j'aime vous écouter. Fait qu'il y a sûrement des gens qui vous écoutent, puis qui sont aussi amateurs d'autographes, amateurs de tout ça.
Là. Ces systèmes de collection-là aussi. C'est important d'en parler, c'est important de s'ouvrir là-dessus. Oui, on a commencé ça avec les cartes, mais tu sais, Yannick collectionne des bouteilles. J'arrête pas de l'écœurer avec ça. C'est toutes les maudites affaires qu'il collectionne qui n'ont pas rapport avec le sport du tout. Fait que oui, ça fait partie de notre mission également. Une fois que la folie Bédard est installée, ouais. Bien partie, là, on peut partir avec plus de sujets.
Parce que moi, j'encourage beaucoup les gens, les collectionneurs, à aller au salon à Drummondville, là, qui a lieu deux fois par année.
Tournée des collectionneurs.
Non.
Non?
Non, c'est le salon des collectionneurs.
Le salon des collectionneurs?
Qu'ils font deux fois par année au même endroit.
Là-bas, Yannick était là dans la fois, ils n'étaient même pas capables de marcher dans les allées tellement qu'il y avait du monde.
Ce qui est génial, c'est que ça t'ouvre sur d'autres avenue aussi de voir des choses qui t'intéressent.
Maintenant, quand il achète des trucs, là, comme là-bas au dernier show de Drummondville, il est revenu, il m'a appelé, il dit « J'ai acheté tellement d'affaires. » Puis il dit « À chaque fois que j'achète, je pars à Rive. » Je me dis « Hey Greg, il rirait de moi encore de voir ce que j'ai acheté. » Puis il me parle de ça, puis je trouve ça le fun de voir ça à travers... Tu sais, un jour, il m'a tombé en amour avec un item de collection comme ça. Mais je trouve ça le fun de voir la passion à travers les gens qui découvrent ça.
Évidemment.
Puis qu'il y a une richesse là-dedans. C'est-à-dire, par exemple, ça peut être un enseigne, tu sais, une fameuse enseigne de Coke qu'il y avait dans tel restaurant ou tu sais, quelque chose comme ça. Tu sais, pour moi, je suis encore en train, tu sais. Puis à un moment donné, ça va arriver. Tu sais, la collection, tu l'as dit, ça commence à telle place, ça s'en va à un autre, ouais. Ça bouge. Pis,
mais tant que ça ne devient pas une folie, là,
c'est ça. Non, ça, c'est ça, c'est tough, ça, que ça ne devienne pas une folie. Ouais. Mais bref, on sera en reparlant ensemble. Alain, grand merci plaisir. Encore une
merci,
fois.
Greg.
Merci, merci beaucoup pour tout. Puis nous, ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Show de cartes. Merci à tout le monde d'être là. Salut.